Bonjour à tous, bienvenue à cette troisième podcast, pardon, de la NLC, édition première ronde des séries éliminatoires 2020-2021 de la NLC. Mon nom est Gabriel Duquette, et, directeur général des Sénateurs d'Ottawa. Et puis ce soir, oui, ce soir, parce que là, on est rendu pas loin de 7h30, hein, ce samedi, à la veille de premier affrontement de la conférence Le Mieux dans ces séries éliminatoires. Donc, et puis lundi, on a la conférence de Gretzky qui commence. Donc, avec moi ce soir, on a eu un changement dans le personnel. Donc, j'ai toujours mon acolyte fiable, Alexandre Bélanger des Prédateurs de Nashville. Salut mon Alex, comment ça va?
Ça va bien et toi mon Gab?
Oui, ça va bien. Et puis, comme deuxième invité et un nouveau, Darren Mongrain des Flames de Calgary. Salut mon Darren.
Salut.
Comment ça va?
Super, content d'être avec vous ce soir.
Ben ouais, t'es pas vraiment en face de moi, mais écoute, on a réussi à trouver un moyen de pouvoir communiquer de loin. Je suis bien content avec cette nouvelle façon-là, ben on va pouvoir justement recevoir de différents invités au fur et à mesure des prochaines éditions. Mais pour ce soir, c'est toi notre invité spécial, mon Darren. Donc, bienvenue à toi, bienvenue dans le show.
Ça fait, c'est quand vous voulez.
Yes, sir. Fait que, pas compliqué aujourd'hui, ben, c'est édition spéciale, première ronde des séries éliminatoires. Donc, on va y aller selon... selon nos perceptions, nos prédictions des affrontements de chacune des équipes qui vont s'affronter. Donc, félicitations à tout le monde. Félicitations à vous deux, les boys. Vous faites partie des séries.
Oui, merci.
Merci, félicitations.
C'était déjà assuré depuis... c'était pas nécessairement assuré pour vous comme moi au dernier match, mais au moins, on vous êtes sûrement préparés en circonstances pour les matchs qui s'en venaient.
Je suis prêt.
All right. Donc, allons-y. On va commencer avec toi, Darren, en fait, parce que tu es notre invité spécial aujourd'hui. J'aime ça que tu me parles, en fait, de toi, en fait, depuis quand, en fait, tu es dans la Ligue, en fait. Parle-moi vite, un peu de ton...
Depuis à peu près 7 ans.
7 ans. Fait qu'on parle des alentours d'à peu près 2013, à peu près, c'est ça? 2013-2014.
Oui, j'ai fait plusieurs parcours au cours de ces années-là. J'ai commencé avec les Canucks de Vancouver. Et par la suite, j'ai transféré aux Panthers de la Floride et finalement fini avec les Flames de Calgary, où j'avais le goût d'une équipe canadienne.
Ouais, mais c'est sûr que toi, en plus, depuis que je suis dans la Ligue, tu as un gros faible prix, un gros penchant pour les joueurs des Flames. Fait que...
Ouais, disons qu'avec le temps, on se dit qu'on se donne, on pourrait dire, une nouvelle passion. Donc, en même temps, je suis beaucoup les Flames en live et en même temps, ça me donne une occasion de pouvoir, comment dire, je suis comme un vrai DG sur vraiment le parcours de A à Z de tous les joueurs qui possèdent.
Ah ouais, c'est pas évident nécessairement d'avoir une équipe très similaire à la Ligue nationale non plus. Là, c'est pas évident.
Mais... Non, c'est sûr, mais en même temps, ça donne aussi comme pour la plupart des DG à avoir les joueurs qu'ils préfèrent en tant que tels pour après ça se composer avec le nom qu'ils ont de leur équipe.
Ça t'aide à gérer puis à comprendre le développement des joueurs et aussi, puis tout, là, si tu les écoutes plus souvent, là, ça t'aide à gérer plus ça, puis à mieux évaluer aussi les joueurs que tu as sous la main. Là.
Oui, tout à fait, comme les derniers prospects des Flames, comme par exemple le dernier qui a suivi sa campagne dans une saison complète, Dylan Dubé, je sais que c'était le meilleur prospect cette saison à pouvoir percer l'alignement. Ils ont donné sa chance. Un peu de difficulté durant sa saison, mais comme vous avez pu constater, les Flames ont une saison très difficile.
Non, c'est pas évident, la division canadienne. Là.
Non, ça reflète plus vraiment l'année qu'ils ont eu. Je me souviens bien, à peu près 7 joueurs qui ont eu au-dessus de 50 points.
Ah ouais, l'année avec Monahan, Gaudreau, puis...
Lindholm,
effectivement. Ça, c'est mon joueur préféré de cette équipe-là. Lui qui est un joueur complet. Là, cette année, il a évolué au centre. Contrairement à l'aide droite.
En plus, hein, premier centre, il est plus haut. Je pense qu'il joue plus de temps que Monahan en plus. Là. Fait que...
Effectivement, il joue partout. Il joue en avantage numérique, désavantage numérique. Il est efficace sur les cercles de mise en jeu. Regarde... C'est un peu s'il parlait que leur grosse faiblesse était au niveau des centres, donc je crois qu'avec lui, ils vont pouvoir se concentrer sur cette position-là.
Non, ils sont complets au niveau centre. Côté, même, ils sont prêts à échanger l'autre Reinhardt, là, le troisième, le moins bon des Reinhardt. Là.
Bennett.
Non, excuse-moi, je sors de haut avec mon Reinhardt.
Ouais. Et qu'aujourd'hui, il connaît des bonnes séquences avec Floride. 13 points en très peu de rencontres. Hein. Bien sûr, il joue avec Huberdeau et Anthony Duclair, ça l'aide beaucoup.
Panthers. C'est une belle équipe, ça, pour les Panthers. Là. On parle un peu de la NLC, on fait la Ligue nationale, on fait une petite parenthèse là-dessus, là, mais les Panthers...
Oui, bien sûr, vous m'arrêtez quand vous voulez, là.
Ben non, écoute, hey, c'est toi l'invité, tu... On...
mais, ah ben, comme c'est ça.
Ben, écoute, juste vite, parce que là, je savais pas, comme première équipe, t'as quand même eu les Canucks de Vancouver. C'est tes premières années, ça fait 7 ans. Tu peux me dire s'il y a eu une évolution? Ben là, on peut pas dire nécessairement une évolution parce que je pense qu'il est au stade le plus haut qu'il peut être, je pense, Vancouver. Là. Il était comment ton équipe Vancouver quand tu l'as eu?
Je dirais qu'elle était quand même équilibrée. J'avais eu des éléments qui m'ont permis d'aller me rendre loin. Il y a une année qu'avec eux, j'ai été encore en demi-finale de la Coupe Pat Burns. J'ai perdu en 7 contre les Oilers de Moncton, qui, lui, a gagné la Coupe Stanley cette année-là. Donc, ça a été un parcours intéressant. Et après ça, j'ai voulu avoir, par préférence, une équipe de l'Est, les Panthers, qui, avec eux autres, ça a été un peu plus difficile. Pendant toutes mes saisons que j'étais avec eux, des Panthers, je parle, je n'ai pas fait des séries du tout. Donc, ça a été plutôt, je dirais, une séquence reconstructive au niveau de mon équipe. Et que par la suite, et lorsque je suis arrivé avec les Flames de Calgary, c'est là que je crois que ça a vraiment porté fruit, qu'après ça, j'avais les éléments pour pouvoir mieux rivaliser contre les équipes. Et surtout que j'ai quand même eu un gros défi. La division Pacifique, comme vous l'avez pu constater, est extrêmement forte.
Oh, ouais, ouais. Surtout avec ton expérience acquise avec les Canucks, qui était plus gagnante. Puis maintenant, avec ton expérience que tu as eu avec les Panthers, qui était moins gagnante, ben, avec toute cette expérience-là acquise, au fur et à mesure, ben là, tu ton image, puis je pense qu'elle reflète bien ton équipe. Là.
Oui, en même temps, on comprend aussi par les années qui suivent que pas à cause qu'on a un joueur comme, par exemple, je donne un exemple, Sidney Crosby, qu'on va gagner la coupe en tant que tel. Ça aussi, il faut voir aussi la fonction des joueurs. Ils sont-ils nuisibles? Sont-ils pas nuisibles? Sont-ils productifs dans la ligue? Par exemple, je donne un no-name qui performe cette année. Comme par exemple, je donne un exemple, Ryan Nugent-Hopkins est mon meilleur pointeur. Pourtant, c'est un bon joueur, mais c'est pas Sidney Crosby.
Donc, il a fait la course toute la saison, en fin de saison, pour la course au buteur avec Patrick Kane l'année passée. Puis je pense même qu'il a gagné. C'est cool, là, de mémoire. Là. Mais je sais que Nugent-Hopkins, là, c'est, dans la NLC, c'est un joueur complet.
Le même effectivement. Je dirais que c'est le genre d'éléments qui aident beaucoup une équipe, des joueurs complets en tant que tels. Mais je suppose que c'est peut-être pour. Ça dépend toujours aussi des équipes là aussi. Il y en a qui sont. Ça, genre, un joueur comme par exemple Patrick Kane avec toi, lui, il est très productif avec toi et il t'aide beaucoup à gagner des victoires. Non!
Écoute, il y a à peu près 40 points de moins que l'année passée. Mais il y a d'autres joueurs qui ont pris sa place, c'est correct, là, mais c'est pas la même production que l'année passée. Ça, c'est la petite exception pour lui.
C'est une variété, mais aussi une chimie qui fonctionne avec les équipes. Non, ça, je pense que tous les deux, vous l'avez appris de votre expérience dans la LNC.
Non, ouais, il y a pas parce que justement, tu mets tous des joueurs offensifs, ça va être une ligne.
Non, pas du tout, aucunement.
Ça n'a aucun rapport. Ok, c'est bon. Écoute, c'est vraiment là, c'est le fun à savoir que c'est pas la seule équipe que t'as eu, puis que ça fait 7 ans, donc t'es quand même un vétéran, là, parce que Eric Hénon, lui, ça fait 30 ans avec la ligue, puis tu fais, je pense, ça fait à peu près ça, 5 ans qu'il est dans la ligue.
Je crois qu'il est rentré à moi aussi, ou en même temps, je me souviens plus, mais je crois que dans les mêmes années que moi qui est.
Bon, ben, c'est peut-être ma mémoire qui fait encore défaut. De mémoire, je pensais que j'avais entendu 5 ans. Écoute, ça me surprend même pas. Ok. Ben pour poursuivre, écoute, on va y aller avec les. On va commencer avec la prédiction des de la conférence Le Mieux.
Oui.
On va y aller. Ben en fait, j'ai un papier devant moi que j'avais gardé, que j'avais fait durant notre premier podcast de la date limite des transactions. Puis selon mon tableau que j'avais fait, il y a toutes les équipes que je croyais être affrontement, j'ai eu 90% en fait de résultats positifs. Il y a juste en fait Columbus comme Washington que ça n'a pas été le cas. Puis Chicago contre Calgary que c'était possible, mais finalement ça va être Chicago contre Nashville. Mais juste par rapport aux résultats que je voulais vous informer de ça sur mon petit tableau que j'avais fait de prédiction. Excusez-moi.
Oh, on a un invité spécial. Wouf, wouf, ça je vois qu'au podcast de la LNC.
Ça, c'est notre garde du corps, là. Il check toute ma console, mes micros, là, qui valent tout ça.
Oui, on t'entend toujours, Gabriel.
Okay. Moi, je vous entends. Allô?
Oui.
All right, on est reparti. Bon, ça pour dire que mon tableau de prédiction de ce que j'avais fait à la limite transaction est assez similaire au résultat final. Il y a juste finalement il y a Caroline puis qui a pris Washington. Mais selon toutes les équipes que j'avais mis en série, c'est vraiment la seule différence qu'il y a. Donc, on va y aller. On va commencer par la division le mieux. On va commencer... On va commencer avec la conférence. C'est moi qui est compliqué là. On va commencer avec la conférence le mieux parce que c'est demain. Puis je suis
oui, bien sûr.
Là-dedans. Puis vous deux, vous êtes dans la conférence Gretzky qui s'annonce lundi. Donc on va sûrement être plus détaillé vu que j'ai deux invités dans cette conférence là. Donc on y va avec la conférence le mieux, les boys. On va y aller avec le premier affrontement. Ottawa contre Montréal. Donc le premier de la division Atlantique affronte la
deuxième place du wildcard.
Deuxième place du wildcard, exactement. Donc, allez-y, messieurs, allez-y selon ce que vous en pensez de cet affrontement-là.
Moi, je pense que, si je peux commencer, ce que je peux voir, toi, tu as remporté quatre affrontements contre le Canadien. Donc, le Canadien n'a eu aucune chance contre tes affrontements cette saison. Par contre, si je peux apporter un point que probablement personne n'est... que personne n'est au courant. Depuis quelques années, j'ai remarqué que, toi, si je me souviens bien, Gabriel, toi, tu as fini premier de la division le mieux.
Exact.
Et j'ai remarqué depuis 2-3 ans que celui qui finit premier de l'association le mieux se fait sortir de la série en premier round.
Je sais, je l'ai vu.
Ouais. Donc, je sais pas que peut-être que cette année, tu seras l'heureux élu qui va briser. Comme j'appelle ça, la malédiction de l'association le mieux.
Écoute, je l'ai vu, j'ai suivi ça dans les derniers résultats, je m'étais informé, puis... vas-y Alex, vas-y, poursuis.
Ah, mais moi j'ai rien dit, il y a une malédiction, mais tu sais, il n'y a rien qui t'empêche de briser ça. Moi, honnêtement, je suis très confiant que tu passes ça assez... tout respect aux Canadiens, désolé, là, mais... 5 matchs. D'après moi, ton équipe a trop de profondeur. Les améliorations que tu as faites, surtout avec Hornet, à la date limite des transactions, ça a juste... Déjà que ton équipe était très forte, tu l'as juste complètement amélioré. Là. Moi, je suis assez confiant que tu passes la première ronde assez facilement. Là. Encore une fois, tout respect aux Canadiens, mais... Puis, je pense que t'es vraiment l'équipe... Avec, évidemment, les Sharks, t'es vraiment l'équipe à battre.
Donc, tu me dis un Ottawa en 5.
Moi, je dirais en 6, je dirais que Montréal peut être une équipe très compétitive et peut apporter des surprises. Mais toi, avec Jakob Markstrom, qui m'a permis de me rendre loin en série l'an passé et qui a connu une saison incroyable avec toi, je crois qu'il peut t'aider à te rendre loin et à remporter cette série.
Je suis entièrement d'accord avec toi, Darren, aussi, Alex. J'ai mis aussi Montréal en... Montréal. Je me suis mis Ottawa en 6. Je crois quand même que Montréal va me donner du pain sur la planche. Ça reste une équipe assez solide défensivement quand même, avec un excellent équilibre. Au début de saison, j'ai perdu la première game, puis j'ai tout de suite dû m'adapter. Mais la rivalité, surtout que j'aime dans cette série-là, c'est aussi la rivalité Shifley-Zibanejad.
Exactement, j'avais prévu de partir ce point-là aussi. Votre échange qui a été bénéfique pour les deux équipes.
Exact.
Et on verra voir qui aura le dernier mot dans cette transaction, Zibanejad ou Shifley.
C'est exactement les mots que tu m'enlèves de la bouche. C'est qui va avoir le dernier mot pour cette transaction-là. Ça va se terminer avec le gagnant de cette série-là. Puis après ça, ben on passe à autre chose.
Parfait.
All right. Fait que super. On poursuit par avec les Bruins de Boston contre Tampa Bay, l'équipe de Simon. Claude contre Simon. Donc, allez-y. Vas-y, mon Darren. Qu'est-ce que tu penses de cette série-là?
Bon, à vrai dire, ça a été deux clubs très intéressants que même moi, je dirais que cette série-là va se terminer en 7. Comme je peux le constater, le Lightning a remporté 3 de ses 4 affrontements contre les Bruins de Boston. Mais ce que je peux dire, c'est que TB a fait beaucoup de transactions cette année. Après ces plusieurs transactions, ça a été un peu dur à trouver un équilibre dans son alignement. Et vers la fin de la saison, c'est là qu'on dirait que la stabilité s'est produite. Et je crois qu'en même temps, si je peux apporter le point, la grosse transaction majeure qui s'est faite entre Bruins et Tampa Bay, Seth Jones avec Jacob Vrana. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais Boston est une équipe qui a de l'expérience. Le DG Claude Labelle a de l'expérience dans les séries éliminatoires. Ça fait plusieurs années qu'il est fait. Et avec Tukaras, qui est avec Claude Giroux, Alex Barkov, je crois que...
Ça... Saisons, là. C'est
pour ça que je prédis probablement peut-être plus Boston en 7.
Dis-moi, Alex.
Je vais un peu dans la même optique. Les deux équipes ont vraiment beaucoup de profondeur, mais je vais pencher un peu encore une fois pour l'expérience. Puis vraiment, je vais aussi. Je pense que Boston, avec l'arrivée de Seth Jones, là, ça les rend vraiment difficiles, honnêtement, à affronter. Puis ça se passe aussi au niveau de la ligne de centre, là, que je pense que ça va faire une grosse différence là, quand tu as Giroux, Barkov, Krejci. C'est rien contre Kuznetsov, Trocheck, la ligne de centre à Tampa Bay, mais Boston est sûrement, c'est pas top 5 c'est facilement top 3 même des lignes de centre dans la LNC. Fait que je vais prioriser Boston, mais ça risque d'être une série quand même assez serrée. J'y vais comme en 7 aussi avec Boston.
Écoutez, j'ai mis sur mes papiers, j'avais mis Boston en 7. Puis moi, j'aime pas ça être comme tout le monde, vous le savez. Moi, je suis le mouton noir de la gang. Fait que moi, je vais y aller finalement. Je vais changer mon fusil d'épaule. Je vais y aller Tampa Bay en 7. Parce que j'ai regardé les derniers résultats de Tampa Bay. Puis moi, je trouve qu'il a payé cher à date limite des transactions pour Seth Jones. C'était un fort prix pour le donner. Pour finalement avoir Jacob Vrana, qui reste quand même un jeune joueur quand même assez correct, là, mais Seth Jones était un gros morceau sur le top 2. Puis même à ça, depuis qu'il est parti, ça va mieux. Fait que, puis contrairement à Boston, je trouve que ça va, c'est pas que ça va mal, mais ça va moins bien que Tampa Bay. Donc même si le tempo, la chimie, toute le moral des joueurs reste tout, revient bien, tout égal. Je crois que Simon de Tampa Bay a trouvé peut-être la clé gagnante avec son équipe qui pourrait peut-être jouer justement la surprise des premières rondes. Puis ça serait celle-là du côté de la conférence le mieux. Donc, puis là, comme je vous dis ça là, j'ai rien écrit là. J'avais mis Boston en 7. Là. Puis là, je change mon fusil d'épaule.
T'es comme moi, là.
C'est ce que je pense.
T'es comme moi, il n'y a rien écrit, c'est tout improvisé.
C'est ça. Puis là, je t'arrête.
Mais tu peux changer aussi.
Fait que je crois vraiment que Simon peut être capable de battre l'équipe de Boston, mais en 7.
Oui, ça pourrait être intéressant, comme j'ai oublié d'apporter un détail que j'y viens de penser. Il a été chercher Duncan Keith, Simon, un défenseur qui a aidé les Maple Leafs de Toronto à se rendre deux fois en finale de la Coupe Pat Burns. Donc, un défenseur d'expérience que même s'il a connu une saison difficile cette année dans la Ligue, il peut peut-être apporter une expérience et une dynamique en défense chez le Lightning.
Oui, excellent point, ça. Un très bon vétéran à rajouter. Moi, j'y ai pensé, je le voulais, mais en même temps, j'étais pas prêt à payer le prix, on dirait, pour l'avoir. Là. Mais c'est un défenseur qui, effectivement, peut vraiment rapporter gros en série.
All right.
Nous le constaterons tout ça dès demain.
Right. Exact. Bon, ben, on poursuit après ça avec les Flyers de Philadelphie contre les Panthers de la Floride. Donc, vas-y, mon Darren, qu'est-ce que tu penses de cette série?
Je pense que moi, j'opterais plus pour les Flyers de Philadelphie, mais j'avoue que Floride est une équipe assez surprenante. Elle qui m'a beaucoup surpris cette année, malgré son équipe, qui a quand même beaucoup de jeunes. Je dirais que c'est une équipe qui pourrait être surprenante et j'ai hâte de voir qu'est-ce que il va apporter dans ces séries-là, mais j'opterais peut-être pour plus Flyers en 5 et aussi de voir si son gardien de but au Flyers du Philadelphie, Linus Hallmark, va faire le travail. Comme j'ai pu constater que même si l'équipe est très talentueuse au niveau des Flyers, je dirais que la faiblesse serait encore au niveau des gardiens de but.
C'est un gros point d'interrogation dans cette position. Qu'est-ce que tu penses, Alex? Vas-y. Ah, excuse-moi, Tamlin. Darren, tu me donnes. Tu y vas. C'est quoi ton résultat?
J'avais dit Flyers en 5.
Flyers en 5, excuse-moi. Vas-y. Vas-y-moi, Alex, qu'est-ce que tu penses de cette série?
Honnêtement, Floride, c'est l'équipe Cendrillon, je pense, de cette année, là, au niveau profondeur et tout, là. Je pense que, tu sais, il y avait quand même une belle ligne de centre, quand même Jack Eichel, mais, c'est quand même une équipe Cendrillon. Je pense qu'il y a des équipes peut-être plus, avec plus de profondeur qui auraient pu faire les playoffs. Moi, Philadelphie, je l'ai toujours, je l'ai dit une couple de fois, là, c'est mon équipe préférée dans la LNC. La façon qu'elle est montée, tout le good job au DG des Flyers. Moi, c'est mon équipe préférée dans la LNC. Mis à part évidemment la mienne. Mais écoute, je vois ça. J'aime pas ça mettre ça en 4, fait que je veux dire 5, là, mais 5 pour les Flyers. Là. C'est trop une équipe avec trop de profondeur. T'as 3 trios, même 4 trios égales, là. Ça va bien. T'as les deux défenseurs aussi, Provorov, puis je sais pas si tu peux m'aider avec le deuxième.
Ryan Sutter?
Non.
Cliff Baum.
Cliff Baum. Fait que les deux ils ont fini deuxième et troisième meilleur défenseur au niveau des points. Fait que ça va passer aussi beaucoup par là, la ligne de centre, McDavid, Seguin. Écoute, on peut en parler longtemps, mais ça va être, d'après moi, c'est mon équipe même pour gagner la Coupe cette année. Désolé, je l'ai dit, mais mais ouais, moi je vois ça en 5.
Ah, je suis convaincu qu'il va tout faire pour créer la chimie. L'an passé, il n'a pas fait les séries, qui a été très surprenant. Je crois que cette année là, il va tout faire pour créer des surprises avec toute la tirée qu'il possède.
C'est parti un peu slow au début de la saison, mais ça a vraiment, il est resté constant après ça pendant peut-être les 20 premiers matchs. Après ça, il est resté super constant, puis il a dominé, là.
Bon, mais c'est bon. Ouais, c'est des bons aspects. Moi, je vais dans le même sens que vous autres. Je suis obligé d'être un mouton blanc. J'ai marqué Philadelphie en 5. Je pourrais même mettre aussi peut-être même Philadelphie en 6, mais ça reste que c'est Philadelphie quand même qui va remporter cette série, je crois bien. Floride, je suis pas nécessairement d'accord avec toi, Alex. C'était une équipe Cendrillon tout le long de la saison. Moi, je trouve que tout le long de la saison, elle s'est battue dans les 4 premières équipes de la division Atlantique. C'est pas une équipe nécessairement qui a couru nécessairement le wildcard. Elle a juste descendu parce qu'au final, Tampa Bay a remonté la pente comme qu'elle se devait avec l'équipe qu'elle avait. T'sais. Fait que, au final, Floride aurait en fait la job qu'il fallait qu'il fasse, puis même peut-être un peu plus qu'il y a eu. Il a peut-être un peu eu de chance, mais en même temps, je trouve qu'il a très fait du bon travail avec son équipe, mais c'est pas assez pour rivaliser contre une équipe contre les Flyers de Philadelphie. Comme tu dis, le top 6, il est impeccable, même avec le top 3, le top 9, excuse-moi, avec, on parle de Dano ou même de Tom Wilson, là, sur un troisième trio, là, t'es gâté, là, tu sais. Puis après ça, ben, j'aborde dans le même sens que Darren côté gardien de but. C'est juste là le petit point d'interrogation. Mais avec la moyenne de but que score les Flyers, qu'en accorde 2-3, ils vont en scorer 3-4-5. Fait que j'y vais quand même Flyers en 5.
Nous sommes tous d'accord là-dessus.
Pas mal là-dessus, exactement. Donc, la dernière série pour la première ronde, on va avec les Blue Jackets de Columbus contre les Hurricanes de la Caroline. Donc, allez-y, messieurs. Darren?
Pour cette série-là, je dirais que j'opterais pour Columbus en 6. Eric qui a fait un excellent travail cette année. Lui qui n'a pas eu la chance de faire les séries dans les dernières années. Et cette année, il se trouve à une très belle position. Et maintenant, il y avait toute l'équipe qui a. Il a été cherché Steven Stamkos et Oshie qui a été cherché il y a quelques années. Ça a apporté beaucoup de talent et d'expérience dans son équipe. Et avec Corey Crawford qui l'a beaucoup aidé cette saison. Je crois que cette série-là, je voterai pour Columbus qui va gagner contre Hurricane. Lui a quand même été capable, avec tout ce qu'il a donné comme choix de repêchage cette année, il a dit... On y va pour le tout, pour le tout. Il a quand même été une équipe très rivalisante et a été à une victoire de plus que Washington qui a tranché pour sa troisième place de sa division.
C'était, C'est un travail acharné du début jusqu'à la fin pour du côté de Caroline. Il ne faut pas y enlever ça non plus.
Non, tout à fait. Et avec ton échange avec toi qui a été chercher Alex Pietrangelo qui l'a beaucoup aidé en défense aux côtés de Quinn Hughes.
Moi, il est parti à Pittsburgh, puis après ça, Pittsburgh l'a échangé. Mais ouais, c'est à partir de là, cette transaction-là, même s'il a donné des jeunes, là, ça lui a donné un très gros coup de pouce. Là. C'est un mentor pour n'importe quelle brigade défensive, un Pietrangelo. Là.
Tout à fait.
Ouais. Fait qu'on y va pour Darren Columbus en 6. Alright. Toi, mon Alex?
Je vais un peu dans le même sens, honnêtement. Columbus en 6, je serais même peut-être pas surpris en 5. Mais là, Eric n'est pas là pour dire que c'est le meilleur DG ici. Là. Fait que là, je sais pas si c'est. Je sais pas c'est quoi faut dire par rapport à ça, là, mais
c'est
non.
Justement, il pas répliquer. Fait que, ah ouais, laisse-toi.
C'est ça. Fait que, s'il n'est pas là pour dire, c'est parce que ça, c'est pas vrai, là, tu sais. Mais, blague à part, très belle équipe, on sait comment qu'elle est. L'ajout de Stamkos était l'élément clé pour cette équipe-là. Ça prenait un joueur de talent, ça prenait un joueur franchise qui est capable de faire des buts. Même si c'est peut-être pas le leader au niveau des statistiques, je pense que ça a comme tout débloqué d'autres joueurs, plein de joueurs des meilleurs, des plus et moins. Je suis assez confiant aussi que ça va être, d'après moi, même s'il aime pas trop aussi Crawford, on va faire en masse la job. Là, pis, en tout cas, pour la première ronde, je suis très confiant. Ça va être en 6 ou en 5. Là, juste pour faire différent de Darren, je vais dire en 5.
OK. Ben là, moi, je trouve juste tranché. Je vais faire 5.5 d'abord. Mais non, moi aussi, je vais du côté de Columbus. C'est une équipe que toute l'année, il a été deuxième. Il a reculé un petit peu vite, troisième dans cette division, mais il est resté deuxième tout le long derrière Philadelphie. Puis c'est une équipe qui est très, très bien équilibrée côté but puis côté défensif. Offensif et défensif, ce que je veux dire, c'est une équipe qui accorde pas beaucoup de buts, mais qui n'est pas aussi nécessairement en accorder beaucoup, vu qu'elle n'accorde pas beaucoup. Fait que c'est vraiment une équipe face à la Caroline, qui n'est pas une équipe très, très offensive. Ça m'étonnerait que ça se déroule en 6, peut-être même en 7. Donc, je vais Columbus en 5. Puis, pour les dernières séries de Crawford, je m'attends à des performances exemplaires. Donc, c'est pour ça. Donc, Columbus en 5, 5-6. On est pas mal tous sur la même longueur d'onde, les boys pour la division... La conférence le mieux, pardonnez-moi.
Ouais.
Moi, les affaires de le mieux, le gratis, ça me bug un peu. En tout cas. Bon, ben, les boys, pour la
on est habitués à la session OS et S.
Ouais, c'est ça. Je suis tout le temps sur le bord de me tromper. OK. Bon, là, j'ai envie qu'on poursuive un peu sur nos prédictions. Voulez-vous y aller sur une prédiction du match de demain? Juste pour le match de demain, là, juste pour le fun.
Pour le match demain?
On regarde les matchs de demain, puis on y va qui contre qui, puis on... En fait, demain, c'est toutes les équipes de la conférence le mieux qui s'affrontent. Donc, selon vous, qui va remporter le premier match de la série?
De mon côté, j'apporterais que pour Ottawa canadien, je dirais Ottawa pour le premier match. Tampa Bay Boston, je dirais TB. Pour Flyers, Floride, Flyers. Premier match, Columbus-Hurricane, Columbus.
Pour Flyers-Floride, t'as dit Floride ou Flyers?
Flyers, excuse-moi, j'ai été un peu...
All right. Toi, mon Alex, pour ton premier match?
Moi, je vais y aller bien simple, mon Gab. Toutes les équipes que je pense qu'ils vont gagner le premier match.
Thanks. C'est Ottawa, Boston, Philadelphie, puis Columbus. Moi, je vais dans le même sens que Darren. Moi, je pense que Tampa Bay va gagner le premier match contre Boston. Sinon, le reste, ça va être Columbus Flyers. Puis non, écoute, il va y aller changement. Je pense... C'est comme la série l'année passée, moi, quand j'ai affronté Toronto. J'étais à la même position que Flyers de Philadelphie contre Toronto. J'étais fini quatrième de ma division. Puis, j'ai gagné le premier match. Puis après ça, j'en ai perdu 4 de suite. Fait que je pense que Flyers va gagner le premier match. Puis après ça, il va en perdre 4 de suite. Mais quoi, c'est juste des prédictions de fin de soirée que je dis là. Bon.
Rien n'est impossible en série. C'est une nouvelle saison.
Exact. Bon. tu vois. Fait qu'on y va pour la conférence Gretzky. Donc, on commence avec l'équipe qui a gagné la Coupe des Présidents, San Jose, qui affronte l'équipe qui a volé la place de Anaheim. Je dis bien volé parce que avec la fin de saison qu'Anaheim a eu, c'est un vol. Il fallait juste qu'affronter LA puis
San Jose
qui perdent contre Dallas. Je ne veux pas tourner le play dans la fin, le faire dans le play, mais ça fait mal. Ça fait mal.
Oh, je suis convaincu que Anaheim va revenir en force l'an prochain et avec l'équipe qu'il y a, il va revenir.
Il était déjà satisfait de sa saison. Je parle un peu pour lui parce qu'il n'est pas présent. Là. Il est encore pogné sa route en revenant de Québec. Là. Il devait se être avec nous, Frank Larocque, mais il ne peut pas. Puis si je peux parler pour lui, il me l'a dit. Il a dit, écoute, j'ai fini où ce que je m'attendais d'être. Puis si je faisais série, c'était un bonus. Fait que je lève mon chapeau. Écoute, il garde la tête haute. Puis il regarde déjà les projets pour l'année prochaine.
Mais ça, par rapport à ça, je veux pas trop m'ostiner, mais quand tu fais les trades qu'il a fait, là, tu t'attends pas à pas faire les séries. Tu fais un push pour les séries.
Non,
puis
non c'est, ça, c'est malheureusement, c'est ça fait partie de la game, ça, Alex. Ça. Plusieurs équipes dans l'Est que j'ai remarqué qui avaient fait aussi beaucoup de transactions pour aller chercher des éléments, on pourrait dire, énormes pour aider une équipe à gagner. Et ces équipes-là ne font pas les séries. Donc, malheureusement, c'est... Comme je l'ai expliqué au début, c'est pas uniquement les gros joueurs qui font la différence, c'est la chimie.
Non, ouais, c'est entièrement vrai. Écoute,
et malheureusement, je dois dire que pour Anaheim, c'est dommage parce que lui qui avait une séquence de victoires de 12 de suite, si je me trompe pas. Ouais, 12.
12.
Ça a été incroyable et je l'aurais aimé le voir affronter les Sharks à la première ronde. Lui qui aurait peut-être été une équipe intéressante à rivaliser contre le champion de la situation de l'Ouest.
Une équipe à confiance de même, je pense pas que tu vas affronter ça, honnêtement. T'es une équipe qui fait genre, 12 victoires de suite de même là, en fin de saison. C'est quand même assez impressionnant. Puis tu veux pas affronter une équipe autant en confiance que ça, je pense.
Quand les éléments sont placés aux bons endroits, là, c'est. On va parler vite tantôt, tu m'as parlé de l'acquisition, mettons, pour Columbus avec Steven Stamkos. C'est sûr qu'il n'y avait pas nécessairement les chiffres de statistiques. Il n'y avait pas les meilleurs stats, en fait. Mais ce qui a permis d'arriver, ce que ça l'a amené en fait, c'est que ça l'a permis de réduire tout le temps d'utilisation de certains joueurs pour avoir le bon temps d'utilisation puis de faire jouer de la bonne façon.
Tout le monde a tombé dans les bonnes chaises.
Exactement.
Effectivement.
Fait que sur Anaheim, c'était la même histoire. C'est qu'à la fin, il avait fait des trades auparavant que ça a coûté cher, mais les résultats, ils arrivaient pas. Mais quand ça a débloqué, là, ça, il était inarrêtable.
Ouais, c'est vrai.
C'est souvent des situations comme ça.
Il va être dangereux la saison prochaine. Là.
Ah, c'est sûr. Avec les jeunes qui produisent dans la Ligue nationale, là, les codes vont monter, ils vont prendre de la valeur. S'il veut, il va pouvoir faire des très bonnes transactions qui vont apporter des éléments beaucoup plus solides.
Des très bons défenseurs aussi. Là. Fait que, son équipe, il a sacrifié de la jeunesse, mais il va être bon pour une couple d'années encore, c'est sûr et certain. Là.
Ouais,
comme le dernier joueur qui a acquis, Rob Hintz, lui qui dans la vraie vie il a plus d'un point par match, il va être un élément.
Mais pendant que Seguin n'était pas là, c'était lui le premier centre à Dallas.
Et en plus. Donc je m'attends qu'avec ce joueur-là, en plus, il produit quand même. Il avait bien fonctionné avec lui à la fin de la saison et je crois qu'il va être vraiment peut-être un de ses meilleurs joueurs productifs l'an prochain.
Ben, il m'avait dit que Robert Thomas, il décevait de la façon qu'il faisait jouer. Puis, écoute, il y en a un joueur quasiment similaire, puis qui apporte un peu plus. Fait qu'au final, il est satisfait là, de la transaction. Puis en même temps.
Il a 25 ans.
Ouais. Un changement d'air, comme on dit, qui a porté ses fruits.
Exact. Non, c'est ça. Des fois, même pour Thomas, là, j'ai vu Thomas aussi à Dallas. Il a eu 2-3 buts en fin de saison, surtout même en prolongation contre. Vegas, je crois, je peux les chiffres devant moi, mais je sais que j'avais vu dans les résultats vite que Thomas avait scoré un but très important, donc ça n'a pas rapport. En tout cas, bref, ça c'est notre petite parenthèse. On revient sur nos séries de prédictions. San Jose contre Vegas. Allez-y les boys, qu'est-ce que t'en penses, mon Darren?
J'avoue que j'étais pour San Jose au début, mais après avoir vu les statistiques des matchs qui ont eu lieu contre ces deux équipes-là, lors les quatre rencontres de cette année. Et je vous laisse deviner combien que de games Vegas a remporté contre San Jose.
Je pense que c'est une.
Il en a remporté 3 sur 4.
OK, non, mais l'inverse, moi, excuse-moi, j'ai mal compris.
Ça, Vegas,
oui.
En a remporté 3 sur 4.
3, contre, 3 sur 4 contre San Jose. C'est et ça. Malgré tout, Yaroslav Halak, le meilleur gardien de but de la Ligue, a perdu contre cette équipe. Donc, je maintiens que je crois que Vegas peut créer des surprises. Mais je obtiendrai peut-être encore pour San Jose que cette série-là va se terminer en 7.
En 7? Quand même!
Parce que si on peut revenir un peu au début de saison, messieurs, Vegas était sur une lancée incroyable. Si on dit qu'à partir de la deuxième demi-saison, c'est là que ça a chuté. Ouais. Mais là, je crois qu'avec maintenant avec sa chance qu'il a et les victoires qu'il a obtenues contre San Jose, c'est là, je crois, que ça peut créer des surprises et peut-être il va revenir sur son image de début de saison.
Écoute, c'est des arguments là solides. Écoute, j'avais pas remarqué que c'était 3 victoires. Je pensais qu'il y en avait eu 2. Mais 3 sur 4, c'est quand même un chiffre important.
Effectivement. Peut-être que si ça avait une équipe qui peut rivaliser contre cette équipe-là, mais aussi ça peut avoir un effet inverse en série éliminatoire. Comme vous le savez, les séries et la saison régulière, c'est pas la même saison.
Ben écoute, de mon côté, encore une fois, je veux pas y aller avec un balayage, fait que je veux dire San Jose en 5. Ils sont trop gros, ils sont trop forts, ils sont rapides. Je vois pas de faiblesse dans cette équipe-là. Fait que je les vois aller finalement au minimum la finale de conférence. Fait que moi, c'est assez facile. Je vais dire en 5. Parce que c'est l'une des seules équipes aussi qui ont la beauté de mettons que ça marche pas avec mettons Halak ou peu importe, ben tu peux vraiment changer ça. Tu peux mettre l'autre gardien qui est un autre gardien numéro 1. Tes combinaisons, il y a tellement de profondeur, tu peux switcher. Je suis pas stressé pour cette équipe-là.
Oui, que Samsonov a connu des bonnes statistiques avec les Sharks cette année. C'est pas compliqué, les deux gardiens de but se retrouvent dans le top 5 des meilleurs gardiens de la Ligue. Donc, il a l'option. S'il y en a un qui choke, l'autre, il va embarquer, qui peut peut-être renverser la situation.
Bon, ben, je vais trancher entre les deux, les boys. Vous avez dit 7, vous avez dit 5. Je vais dire 6. Je vais dire 6, pourquoi? Parce que l'argument de Darren m'a convaincu. 3 victoires sur 4 en saison régulière, malgré un... assez large, une assez grosse différence de points dans leur fiche de saison. Je vais quand même. J'avais donné, en fait, au début, j'avais donné San Jose en 5. Avec ton argument, Darren, tu me convaincs de donner un match de plus à Vegas. Donc, allons-y, San Jose en 6. Ça reste, comme tu dis, Alex, une équipe complète. Pas de défaut. Puis s'il arrive quoi que ce soit, changer l'alignement, il n'y a pas de problème. Ben, faites changer l'alignement. Corriger le petit problème, là, on s'entend. Donc, c'est vraiment. Non, on peut pas exclure une équipe de championne avec une aussi belle saison, avec des statistiques incroyables, être éliminée en première ronde. Donc, San Jose, on est tous unanimes. Allons-y.
On assisterait à une vente de feu, selon moi, si ça passe pas le premier ronde.
Écoute, ça serait un podcast entier sur les San Jose s'ils se font éliminer en première ronde. Puis je te dis, même autre chose, ouais. Je t'en fais un moi aussi, un podcast entier, même si la bande est à ta route. En tout cas, OK, bon, il va à deuxième ronde, deuxième match, pardon, deuxième série dans la conférence Gretzky. On y va avec LA contre Calgary. Donc, l'équipe de Darren contre LA. Là, Darren, tu peux pas commencer. Vas-y, mon Alex.
Selon moi, c'est la série la plus serrée de la LNC pour la première ronde. Deux équipes que j'aime beaucoup quand même. J'ai aimé vraiment la fin de saison quand même des Flames. Darren, sérieux, ton équipe, t'as fait des bons moves, ça l'a aidé. T'as été chercher aussi quand même Fleury, qui d'après moi, qui est un... T'as fait une grosse stabilité aussi comme derrière les deux poteaux. Fait que non, moi ça va être une série vraiment tough, honnêtement. Évidemment, moi je vais te donner confiance. Je pense que tu vas prendre ta revanche de la saison passée. Puis je vais mettre les Flames. Je trouve qu'il y a un petit peu plus de profondeur. Je vais mettre les Flames, mais en 7 matchs.
Ok, c'est bon. Ben, pour moi, c'est Flames en 7. Parce que justement, que les transactions que tu as faites d'arène cette année, tu connais beaucoup plus, tu as beaucoup plus compris qu'est-ce que tu devais échanger et qu'est-ce que tu devais garder. Donc, puis on s'entend qu'avec les affrontements que tu as eu cette année avec, c'est vraiment kiff-kiff. On parle d'une différence des fois de un point ou deux, d'un bord ou de l'autre. Aller, il y a peut-être un petit avantage, mais c'est vraiment pas assez grand pour y donner entièrement comment se dire, un avantage sur la série. Donc, je vais être honnête avec toi, Darren. Que je te mette toi en 7 ou que je mette LA en 7, il n'y a pas personne qui peut se tromper sur cette série-là. T'affrontes les champions de la Coupe Burns. Donc, au final, c'est une équipe qui sait se rendre. Qui sait, comment je peux dire, qui sait faire face au. Je cherche mes mots, excuse-moi. Il sait faire face à l'adversité, pardon. Puis, parce qu'on peut comprendre avec son histoire qu'il y a eu avec les Sharks de San Jose aussi l'année passée, c'était assez remarquable. Donc, puis contre les Maple Leafs de Toronto aussi. Donc, je te souhaite bonne chance, mon Darren. Je sais que tu es capable de gagner cette série-là. Puis bonne chance à vous. Les deux équipes, vous êtes deux équipes solides. Je peux pas donner l'avantage à aucun autre. Comme Alex a précisé, je crois que c'est la série la plus difficile à déterminer un gagnant. Donc ça, c'est ma décision.
Effectivement, je vous remercie de votre confiance, les gars, envers moi.
Faut pas que tu nous déçois, là.
Non, effectivement, je ferai tout pour me montrer à la hauteur cette année. Mais si je peux me permettre, ce qui me fait le plus peur, c'est parce que les Kings sont non seulement une forte équipe, et aussi la transaction que nous avons faite, lui et moi, cet été, concernant Patrick Laine, que moi j'apprécie après ça, Zach Werenski et David Perron, qui ont été des éléments intéressants au niveau de mes séries l'an passé. Et David Perron, qui est un bon vétéran, qui a quand même bien fonctionné avec lui, qui ne fonctionnait pas avec moi, je crois qu'il peut apporter une dynamique intéressante. Et aussi, niveau des cercles de mise en jeu, si vous avez observé un peu ces statistiques, moi je les ai observées, là, ces quatre centres ont plus de 55% d'efficacité sur les cercles de mise en jeu. C'est incroyable.
C'est vraiment bon.
Donc je dirais que ce serait plus là-dessus qui. Je crois que ça va être un gros défi à relever contre eux autres.
Oui, c'est vrai que là-dessus, là, sa ligne de centre est très, très belle. Elle a une qualité côté mise au jeu qu'il va falloir que tu fasses faire. Je cherche mes mots, Colin, à soi. Comme tu dis, en fait, bref, pour les mises au jeu, ça va être un point qui est crucial, en fait, dans la série, parce que ça, c'est surtout côté temps d'utilisation, temps de possession. Donc, bonne chance à toi. L'autre trade aussi que tu as fait avec Tampa Bay pour envoyer Artemi Panarin, c'est un autre trade aussi, c'est un gros joueur qui est parti, ça. Non, excuse.
Oui, c'est exact. C'est bien cet échange-là qui s'est produit avec TB, que j'ai acquis par la suite à Ryan Nugent-Hopkins.
Écoute,
je dirais ce qui m'a un peu insinué à cet échange-là, c'est parce que l'an passé, Panarin a été moins 12 durant mes séries l'an passé. Ça m'a un peu dérangé pour cette année. Donc, j'ai été opté pour un joueur qui pourrait être, comme on l'a discuté tout à l'heure, être bon dans les deux sens de la patinoire.
Écoute, ça reste que Panarin est un top joueur, mais comme je t'ai dit plus tôt, si tu connais tes joueurs, ta position, puis ton équipe, tu sais qu'un Panarin, c'était pas nécessairement nécessaire dans ta formation.
Non, comme c'est chacun son point de vue, comme ça a été le mien, je trouvais que pour moi, il était une nuisance. Donc, j'ai dû prendre une décision. Comme j'ai fait avec Jeff Petrie, qui lui aussi avait été un élément inévitable, qui parle là-dessus. Donc, c'est un peu ces décisions-là que, comme vous avez pu constater cette année, qui m'ont fait bouger pour me préparer pour cette série.
Oui, c'est ça. Toi, les transactions que tu as faites, c'était pas nécessairement pour avoir une meilleure fiche en saison régulière, c'était vraiment pour avoir une équipe prête pour les séries.
Je dirais un peu pour les deux en même temps. Là.
Tu voulais être sûr de t'assurer de faire...
Ou t'as une bonne équipe en saison pour prendre la série.
C'est sûr. C'est sûr que tu changes tes gros joueurs, il faut que tu t'assures de faire les séries. Ça, c'est sûr.
All right. Bon, ben... Tu donnes-tu une prédiction pour ta série contre télé?
Je dirais que cette année, je pourrais avoir ma chance, comme vous dites, en 7. Mais comme on dit, c'est difficile de déterminer un vainqueur. C'est deux bonnes équipes qui s'affrontent. Une rivalité qui a fini en 7 également l'an passé, à un match de la Coupe que finalement a été triomphée par les Kings.
Non, c'est ça. Faut rien enlever à LA. C'est les champions présentement. Donc, tout leur
Non.
respect.
À fait.
Donc, on poursuit avec Chicago contre Winnipeg. Donc, Chicago qui finit deuxième. Excuse-moi.
Chicago, Winnipeg?
Non, excuse-moi. Je me suis trompé. J'ai
Chicago,
dit
Nashville.
Chicago contre Nashville. Exactement. Donc, Chicago qui finit deuxième, puis Nashville troisième position. Vas-y, mon Darren.
Moi, du côté de ça, je dirais peut-être Nashville en 6. Ben, je dirais que, non, peut-être plus en 7 parce que Chicago est une équipe aussi expérimentée. La seule chose qui me chicote, c'est Price, lui qui, après avoir été acquis des Flames de moi, a connu à peu près les statistiques similaires à ce qu'il a vécu avec moi. Et peut-être que si le DG lui offrait un plus grand range, il va créer des miracles.
Non, mais là, à un moment donné, le ranch, là, je
Mais.
parle de G pour 24. À un moment donné, tu veux-tu la villa à Cuba,
Rendu là, pourquoi pas une petite île?
Quand moi une série, il va peut-être l'avoir, c'est ça que de se dire.
Donc, et en même temps, Nashville est une équipe qui a été très compétitive. Alex a été chercher des éléments intéressants comme Nikita Kucherov, Sébastien Aho qui a été un joueur très dominant cette année. Et Brady Tkachuk qui peut apporter un côté physique au niveau de cette série, qui pourrait brosser des joueurs comme Jonathan Toews ou Gabriel Landeskog et Patrick Hornqvist, qui sont des joueurs quand même assez expérimentés qui ont aidé beaucoup les Blackhawks.
C'est bon. Fait que on
Donc,
va de ton côté pour Nashville en 6-7.
je dirais Nashville en 7.
Nashville en 7. Alright. De mon côté, moi je vais aller avec Nashville. Ben, je vais y aller Nashville en 6. Ces accusations de Kucherov, ils n'ont pas été vues en saison régulière. Mais faut quand même dire que la transaction avec mes sénateurs concernant Quinzon puis Brady Tkachuk, ça a fait un effet un petit peu négatif sur sa formation, puis ça a eu un petit déclin. Sauf que je trouve que depuis les derniers matchs, Hamilton commence à se réveiller. Donc si Sébastien Nao se réveille aussi, puis Brady Tkachuk qui se réveille, parce que c'est beaucoup plus un joueur, je trouve, qui est fabriqué pour les séries, même s'il est jeune. Avec ses cotes, il peut venir faire la brasse camarade sur le top 6. Je m'attends à une série assez physique du côté de Brady Tkachuk, même du côté de Nashville en général. C'est pas nécessairement une équipe qui va nécessairement chercher à faire beaucoup de buts, mais elle va vouloir pas vouloir non plus en accorder. Si on regarde la saison régulière entre ces deux équipes-là, il y a un léger avantage du côté de Nashville, mais c'est quasiment équitable. On parle tout le temps d'une question d'un but ou deux. Fait que tu sais, c'est quand même. Encore une fois, on parle d'une autre série très très difficile à déterminer un gagnant. Moi, j'y vois un penchant du côté de Nashville parce que, avec la saison que tu as eue à partir de décembre, Alex, tu étais une équipe bien meilleure que Chicago. Donc, après ça, quand tu as fait, comme je te dis,
C'est vrai que
j'avais.
ça a gelé.
Ouais, si on dit que ça. Allô? Allô? Allô?
Je pense, ben, on a eu de la misère de t'entendre, Gabriel. T'as comme eu une pause.
Ok, non, c'est parce qu'on disait que j'allais sur le site de la NLC, puis on disait que ça t'a coupé. J'étais rendu où, là?
Ben, tu vantais mon équipe.
Bon, ok, je vais faire ça cool, bref. En fait, depuis le mois de décembre, je trouvais qu'avec Kucherov, t'avais vraiment eu une allée, là, t'étais parti, là. Puis avec le trade avec Billy Ketchup et Quinzel, au final, t'as un peu régressé, mais c'est parce que je pense que tu mettais pas Brady Tkachuk sur la bonne chaise. Là, avec le temps, il s'est passé, je trouve que tu as réussi à rééquilibrer le tout, puis c'est ce qui va sûrement te permettre de remporter cette série en 6 ou en 7. Mais au total, c'est la même chose qu'avec Elie et Calgary. C'est une série qui est très, très difficile à déterminer un gagnant. Je pourrais mettre autant Chicago, qui est une équipe très complète, qui est bâtie pour les séries aussi. Donc, j'espère que ton Brady Kachuk est prêt parce qu'il va avoir une grosse part de responsabilité dans la victoire de cette série.
Ben, il est mieux d'être prêt parce qu'au prix qu'il m'a coûté, il est mieux d'être prêt.
Surtout en Hamilton, il est mieux de se réveiller lui avec. Là.
Ça part aussi de lui quand j'ai eu du succès parce qu'il était le meilleur pointeur. Il a fini meilleur pointeur, mais sa production a diminué en fin de saison. C'est mon carrière quand même dans mon power play et tout. J'ai quand même un des meilleurs power play de la ligue, fait que ça passe beaucoup par là. J'ai une équipe qui accorde beaucoup de buts parce que ma défensive est pas top. Puis mon gardien, il est correct. il en laisse une coupe. Fait que ça base beaucoup par mon attaque. J'ai vraiment travaillé fort pour avoir au moins un top 9 qui va produire régulièrement, qui est quand même constant. Je travaille très fort là-dessus. Ça a été ma priorité. J'aurai d'autres projets pour la prochaine saison, mais fait que c'est sûr, j'ai des côtés faibles, mais on va essayer de miser vraiment sur les points forts, qui est surtout l'attaque. Fait que j'ai été chercher Jeff Carter aussi, que je considère qu'il va m'aider vraiment beaucoup sur les face-offs, sur le power play, qui améliore aussi encore une fois mon top 9 pour vraiment avoir quelque chose d'égal en point de vue production. Ketchuk, c'est sûr que j'ai perdu de la production offensive, mais je pense avec le jeu physique, le jeu two-way, je pense qu'il peut m'aider. Fait que c'est là qu'on va voir si ça l'a payé ou pas. Chicago, c'est une équipe qui me fait vraiment peur. Je respecte énormément cette équipe-là. Très bon gardien, Jonathan Tate, qui a eu une saison vraiment incroyable. Je pense dans le même temps le top 5 de la ligue, sinon il est très proche. Fait que c'est sûr, c'est un choix qui va me faire peur pour les playoffs. Écoute, j'ai un petit parti pris évidemment pour mon équipe. Fait que ça va être serré. D'après moi, ça va lancer. Il y a deux séries qui sont vraiment serrées selon moi dans la ligue. Puis c'est elle avec Darren et les Kings, puis moi avec Chicago. J'ai un petit avantage au niveau de la saison régulière aussi. J'ai eu plus de victoires contre eux. Fait que je base aussi un peu sur ça. Puis let's go, puis bonne série à toi. Je me rappelle pas de ton nom, mais DG de Chicago.
Ouais, le DG Dominique.
Dominique, c'est ça.
Oui, effectivement. Comme tu l'as mentionné, tu as eu 3 victoires sur 5 contre Chicago. Des écarts pas très grands en tant que tel. C'était quand même des matchs assez serrés. Ouais. Donc, oui, ça va être une série difficile à déterminer. Je vous dirais que toi et l'équipe de Chicago, vous avez à peu près une équipe similaire. Beaucoup d'offensives, défensives, on pourrait dire acceptables, et un gardien qui goal peut-être une game sur deux.
Ouais, donc, c'est pas mal ça.
Ouais, c'est ça. C'est l'image de ces deux équipes-là. Écoute, il y a une game Price, il est tout feu, tout flamme, puis l'autre game après, ben, il paye contre la Letters. Fait que je veux pas enlever rien à David Map, là, mais la dernière défaite contre Chicago contre la Letters, c'était. Ça donnait déjà une mauvaise aperçu des séries qui commencent, tu comprends?
Le point intéressant avec la série qu'on va avoir, c'est que nous deux, on a eu des fins de saison assez compliquées. Tu regardes l'affiche au niveau des 10 derniers matchs, si ça joue pour 500, c'est beau. Là. Fait que c'est une équipe qu'on rentre pas nécessairement avec le plus gros, la plus grosse confiance. Fait que j'ai hâte de voir où est-ce que ça va aller par rapport à ça.
Non, c'est vrai. C'est vrai, ça, c'est un bon argument. C'est vrai que les fins de saison, là, même si le moral, il retombe tout à 50 ou il retombe tout à tout le monde égal, là, ça reste que la formation reste la même. Puis c'est important de finir la saison du bon pied.
Ben, je dirais, les gars, c'est aussi une manière de voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas avec votre club. Disons que quand on connaît une fin de saison un peu médiocre, c'est là qu'après ça, on apprend nos erreurs et qu'on est mieux préparé pour les séries.
C'est vrai. Alors, et c'est vrai. On l'a fait pour savoir c'est quoi le vrai problème, en fait.
Des fois, savoir c'est quoi les vrais bobos.
Des fois, ça en prend juste une bonne. Alright. Et la dernière série, les boys, et non la moindre, Edmonton contre Winnipeg. Winnipeg a fini premier de sa division. Donc, félicitations à lui, Eric Latulippe. Puis, Edmonton. Que Edmonton ne s'est pas connecté depuis. Allez voir ça vite, là. J'avais vu ça l'autre fois, là. Edmonton, là. Ça fait longtemps, là. Mon site bug, puis à chaque fois, je vois.
Pendant que tu checkes ça, dans le fond, Winnipeg, moi, je vais tout de suite y aller de ma prédiction. Là. Je pense que Winnipeg va gagner ça. Ça va aller en 6 matchs. Edmonton, ça a été l'équipe qui m'a le plus pété de la saison. J'ai rien compris. Des 6-1 en menant, ils m'ont détruit toute la saison. Je ne sais pas ce qui s'est passé.
La bête noire, ça, la bête noire, ça, Alex.
Effectivement, on appelle ça, et ça a le cas de le dire. Mais Winnipeg a quand même une très belle équipe. J'aime sa brigade défensive aussi. Je pense que ça va jouer beaucoup là. Très bon. Il y a un bon duo de gardien, même un peu le même principe qu'un peu les Sharks. Là. Il va pouvoir vraiment, si jamais il y a quoi que ce soit, il y a quoi pour au moins... faire un revirement puis essayer de créer quelque chose. Fait que j'aime quand même cette équipe-là beaucoup. C'est une de mes favorites aussi pour aller au moins jusqu'en finale de conférence. Fait que c'est pas mal ça pour ma prédiction.
Fait que tu dis Winnipeg en 5?
6.
En 6. Winnipeg en 6. Mondarin?
Je opterais pour la même prédiction que Alex. Winnipeg en 6. Je dirais que Winnipeg est une équipe plus équilibrée et de chercher des éléments semi-offensifs et offensifs, un peu comme j'ai été chercher. Il y a beaucoup de joueurs similaires comme Cam McKinnon, Connor Brown, Bo Horvat, qui sont tous des joueurs doués, qui non seulement ce sont des éléments quand même intéressants en série, qui apportent beaucoup de productivité offensive et défensif. Et en même temps, son gardien de but, Dan Vladard, que lui, j'ai été une très grande surprise et qui a fini parmi les meilleurs gardiens de but cette année. Malgré que Bishop a eu plus de difficultés, donc Vladar a plus...
La Calder, justement. On va faire éventuellement justement des nominations. Puis Vladar devrait être considéré parmi ceux-ci.
Oui, ça peut être un candidat très intéressant qui, lui, pourra apporter un rôle, la description de la coupe... de cette coupe-là. Je pense que c'est pour le jeune le mieux... La Coupe Calder, excusez-moi, que la recrue aussi le plus utile, qui a aidé plus son équipe en tant que telle. Et je crois aussi que Dan Vladar a été très utile à sauver beaucoup l'image des Jets en se rendant premier de leur division.
Il faut lui donner notre chapeau à Vladar, pareil. C'est sa première année, il a porté des résultats, il a dépassé les attentes, que sûrement qu'Eric s'attendait